voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux épouses des présidents américains. Quoi de commun entre Michelle Obama, Hillary Clinton, Nancy Reagan, Jackie Kennedy ou encore Eleanor Roosevelt? Un destin hors du commun, pas toujours choisi d'ailleurs, et surtout cette vie entre parenthèses dans le bocal de la Maison Blanche. Toutes racontent à leur manière une certaine histoire du pouvoir en Amérique, mais aussi en parallèle de l'histoire des femmes. Dans le petit club solidaire des First Ladies, on trouve néanmoins parfois quelques grincements de dents, notamment avec cette situation inédite, une ex-First qui brigue la présidence, Hillary Clinton, désormais soutenue par Michelle Obama, qui n'oublie pas néanmoins les attaques du clan Clinton contre son mari Barack. Bienvenue dans le marigot des ambitions, mais aussi des convictions fortes, profondes. Avec notre invité, bonjour Nicole Bacharan.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste des États-Unis, probablement l'auteur en France le plus prolixe sur les États-Unis. Vous publiez avec Dominique Simonet 500 pages sur ses First Ladies en partant de Martha Washington à la fin du XVIIIe siècle. Les voisins, bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions à Nicole Bacharan sur ses épouses de président. Je vous redonne notre numéro de téléphone 331 84 22 71 71 et également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Nous ferons aussi un petit détour par l'Argentine où l'image d'Evita Perón, célèbre première dame, figure encore sur les billets de banque aujourd'hui. Et en fin d'émission, nous entendrons l'éditorialiste américaine Andy Zeisler qui vient de publier l'essai « We were feminist once » en français. « Il fut un temps où nous étions féministe, c'est une américaine et pour elle, ce concept politique a été vidé de sa substance par la pub et par le star system. Vous nous direz, Nicole Bacharan, ce que vous en pensez. Mais tout de suite, bienvenue dans l'enfer, avec beaucoup de guillemets, de la Maison Blanche dans les appartements privés des First Ladies.
It's funny, I used to worry about going into the White House.
You know, sometimes when you're the first lady...
We'll be a goldfish bowl, the Secret Service, I'll never see my husband.
We can't, like, sneak out often on our own.
We stand today at the threshold of a great event.
Just go right over there and go into some shops and stop and have some ice cream. And
that's what I want to work on, and I want to see results.
You know, it was really the happiest time of my life.
First ladies, they all seem to have those same kind of problems.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Nicole Bacharan, on a entendu les voix de Jackie Kennedy, ça c'est la plus belle voix.
Oui, la
voix
la plus douce.
Exactement, très féminine. Michelle Obama, Eleanor Roosevelt, Hillary Clinton, toutes se lamentent sur une vie de famille, une liberté perdue. Et Nancy Reagan de conclure que les premières dames ont finalement toutes vécu en gros les mêmes problèmes. Michelle Obama a parlé d'enfer, en tout cas c'est ce qu'elle aurait confié pendant le premier mandat de son mari à Carla Bruni, l'épouse du président Sarkozy qui était à l'époque en visite à la Maison Blanche. Alors toute la question est quelle est cette vie en bocal justement, qu'est-ce qu'on en fait quand on est première dame, épouse de président américain?
Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a quand même un club des First Ladies, alors celles qui sont vivantes évidemment, on a vu tout récemment Michelle Obama dans une réunion avec Laura Bush, l'épouse du président Bush. Elles se réunissent parfois, bon c'est pas tous les jours évidemment, avec Rosalynn Carter, avec Barbara Bush, parce qu'au fond elles sont à peu près les seules à comprendre ce que ça veut dire, ce qu'elles ont vécu. Alors est-ce que c'est l'enfer? Bon, c'est un enfer quand même assez confortable, mais c'est certainement une place, je crois, qui a toujours, toujours été vraiment difficile. Parce que le pays, parfois même le monde, attend énormément de l'épouse du président américain. C'est un couple qu'on installe à la Maison Blanche et en même temps, elle n'est pas élue.
Donc, elle n'a pas de fonction officielle,
pas de salaire. pas de salaire. Et elles mettent, alors celles, les modernes, si j'ose dire, ces femmes qui ont fait des études, qui ont eu des carrières, elles mettent entre parenthèses ben, leur salaire, leur carrière, leurs ambitions. Bon, Hillary Clinton, quand elle était première dame, Michelle Obama, qui gagnait plus d'argent que son mari et qui avait une carrière de juriste très, très, très brillante, tout ça s'arrête et elles sont au service de la présidence. Mais elles ne doivent pas avoir l'air d'usurper le pouvoir. Elles ne sont pas élues.
Mais à partir de quelle présidence, finalement, l'épouse du président devient scrutée comme ça sous toutes les coutures, devient vraiment une composante de la vie politique? Ça n'a pas toujours été le cas à ce point-là.
Eh bien, finalement, si. Ça a toujours été le cas. Alors, il y a eu des périodes où ça a été plus ou moins intense. La première des First Ladies, vous l'avez cité, Martha Washington, l'épouse de George Washington, qui arrive donc, non pas à la Maison Blanche, parce qu'elle n'était pas construite, mais disons à la tête du pays en 1789, eh bien, tout le monde l'observe parce que c'est la première et c'est à elle, au fond, d'inventer ce rôle, d'inventer les rites, les soirées, la manière dont on s'adresse à elle. Alors, il y en a qui veulent dire Lady Washington, Lady Présidente, la manière dont on la salue, la manière dont elle incarne la nation sans être, évidemment, au pouvoir. Et la seconde, Abigail Adams, attaquée par la presse, comme aujourd'hui, j'ai envie de dire, ni plus ni moins, pour son rôle justement politique.
Avec les réseaux sociaux en moins, voilà. L'Internet en moins.
Exactement, ouais. Mais une presse très violente. C'est très surprenant. Et au cours du 19e siècle, au contraire, où les femmes, en général, sont, en France d'ailleurs, on le voit aussi, mais aux États-Unis sont en général à l'écart, vraiment, de la sphère publique. Alors là, c'est vrai que les First Ladies disparaissent un petit peu du radar, mais elles sont scrutées, alors, dès l'époque de la télévision. Là, vraiment, on ne les lâche plus.
Et on leur demande de prononcer des discours.
C'est leur mari qui leur demande de prononcer des discours. Je me souviens de Laura Bush, par exemple, quand elle s'est mariée avec George Bush. Alors, voilà, peut-être il ne nous a pas toutes séduites, mais lui, il l'a séduit, elle, en 3 mois. Ils se sont rencontrés, ils se sont mariés 3 mois plus tard. Et elle lui a dit... Il est bien clair que je ne prononcerai jamais de discours. Et évidemment, il le lui a promis et voilà une des promesses qu'il n'a pas tenues. Elle prononce des discours pendant les campagnes électorales, pendant les conventions, ces fameux grands rituels républicains, mais également ici et là pour soutenir la politique du président. Il faut qu'elle le fasse bien, qu'elle le fasse avec conviction, mais comme des doublures. Il ne s'agit pas de défendre leur point de vue, mais celui du grand homme.
C'est ça, un outil marketing du président, finalement, c'est une spécificité, une composante de la vie politique américaine, ça, ces discours des premières dames.
Ces discours, ces apparences, c'est cette apparence au sens, je veux dire, leur look, leur mode, leur coiffure, les changements de leur apparence physique sont commentés sans aucune indulgence, et aussi le fait qu'elles adoptent toutes, en tout cas dans la période du XXe siècle, elles adoptent toutes des grandes causes sociales. Alors, certaines, c'est l'analphabétisme, d'autres, Michelle Obama, par exemple, c'est la lutte contre l'obésité des enfants et une meilleure nutrition, le soutien aux familles de militaires. Il faut qu'elles s'impliquent vraiment fortement, mais
Pour ne pas empiéter sur le territoire, voilà, de leur mari, bien sûr.
Il faut que ça reste familial, au fond. Il ne s'agit pas de défense nationale, il ne s'agit pas de diplomatie.
Donc les dossiers sont bien délimités.
Il s'agit pas d'économie.
Et l'exercice est bien codé, on est bien d'accord.
Exactement.
Alors, Michelle Obama, qui est encore à la Maison-Blanche, plus pour très longtemps, c'est vraiment ce que vous décrivez, ce que vous rappelez, ce que tout le monde sait, mais c'est vraiment l'arrivée d'une famille noire à la Maison-Blanche, avec deux filles adolescentes. La Maison-Blanche qui n'a pas connu, finalement, tant que cela, de familles installées à la Maison-Blanche, avec des enfants jeunes.
Oui, il y a eu peu de familles avec des enfants. Si on remonte pas trop loin, bon, on pense au Kennedy. La famille Carter avait une petite fille. Il y a eu Chelsea Clinton. Les deux filles, les deux jumelles Bush qui ont fait un peu les 400 coups. Et puis cette famille, mais vraiment qui sort d'un livre d'images. Les Obama, les enfants sont merveilleux. Petites filles qu'on a tous vues grandir, qui sont devenues des adolescentes d'une classe incroyable.
Avec évidemment une obsession pour Michelle Obama, c'est le sans-faute de la famille.
Et là, je pense qu'elle a réalisé un sans-faute à 4, ce qui quand même paraît une chose incroyable.
Ça multiplie les risques,
une chose incroyable. Mais c'est vrai que le symbole de cette famille noire, particulièrement Michel et les enfants, et je dis cela évidemment sans aucun relent raciste d'aucune sorte, hein, mais qui ont la peau sombre, qui ne sont pas des métis très clairs.
Non mais vous rappelez la réalité et l'histoire des États-Unis, c'est que la Maison Blanche, pendant longtemps, les seuls noirs qui poussaient la porte, c'était des employés.
Exactement, hein. La Maison Blanche a été construite par des esclaves. Et vraiment, pendant très longtemps, voilà, il y avait des employés noirs, beaucoup d'employés noirs. Et maintenant, c'est la première famille emblématique, la famille royale en quelque sorte, c'est une famille noire. C'est un symbole, mais énorme.
Michelle Obama, ultra diplômée, faut-il le rappeler, oui. Princeton, puis droit à Harvard, n'aime pas la politique. Elle n'avait absolument pas prévu d'être projetée sur la scène politique.
Oui, elle a vraiment freiné, en fait. Elle a vraiment freiné. Elle a mal vécu l'engagement de Barack, si vous me permettez de l'appeler par son prénom, en politique. Elle, c'était une femme très, enfin ça le reste d'ailleurs, très féministe, qui pensait que la responsabilité de la famille et des enfants, ça devait être vraiment partagé à deux. Et elle s'aperçoit que son baraque de mari, ben, très vite, il n'est jamais là, sauf parfois le week-end, et encore il est exténué, le téléphone sonne sans arrêt. Et elle l'a vraiment très mal vécu. Et il y a eu un moment où, de toute façon, la décision de se présenter à la présidence très tôt, hein, dans la carrière d'Obama, il a été clair pour tous les conseillers que c'était une décision qui serait prise par Michelle et Barack, qu'il fallait qu'elle le décide, qu'elle le veuille. Elle a, à un moment, dit « Bon, ben voilà, je pense que je ne peux pas le retenir, l'empêcher d'accomplir son destin. » Et elle a fait tout ce qu'il fallait pour l'aider. Et elle a été vraiment un soutien extraordinaire. Je veux dire, sa popularité à partir de ses premiers mois à la Maison-Blanche a toujours été au moins autour de 65%, bien supérieure à celle de son
parce
mari.
Parce qu'elle est restée extrêmement prudente aussi.
Très prudente. Elle est en retrait par rapport à une Hillary Clinton, par exemple, qui avait pris des causes donc, assez politiques.
Elle se positionne mom in chief, hein,
voilà,
c'est-à-dire
maman en chef.
Donc évidemment, elle risque beaucoup moins de prendre des coups.
Exactement. Et vous savez qu'au début de la campagne électorale de 2008, elle était plus politique. Elle était plus radicale. Elle affirmait plus, au fond, un point de vue de gauche américaine. Ouh là là !
Avec la défense des minorités, et pas seulement des minorités noires,
exactement,
des minorités sexuelles notamment.
Voilà, levée de bouclier général, de quoi se mêle-t-elle ? Et puis en plus, il y a un côté, comment dire, il y a une image de la femme noire en Amérique, castratrice, qui mène son homme à la baguette. Et Michelle Obama, c'est une femme qui est aussi grande que son mari, qui est athlétique. Il ne fallait pas qu'elle ait l'air autoritaire. Si vous observez les photos, elle a changé de look. Elle s'est maquillée autrement, s'est coiffée autrement. Elle s'est mise à porter des petits pulls, des jupes froncées, un look très féminin. Voilà, elle a adopté d'une manière très réfléchie le poste de maman en chef.
Quand vous parlez de femme noire castratrice, il faut bien réexpliquer tout de même que parmi les minorités, les familles et les minorités noires aux États-Unis, on a un record de statistiques de familles monoparentales. Et que donc, ces femmes, bien souvent, élèvent seules leurs enfants et sont obligées d'être fortes.
Hein. Exactement.
C'était dans ce sens-là que vous le disiez.
Choix. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit pris dans un sens autre que ce que je voulais exprimer. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de femmes noires en Amérique depuis des siècles qui ont été obligées d'élever seules leurs enfants, souvent la mère, la grand-mère. Donc ce sont des femmes fortes et elles ont raison d'être fortes. Mais à la Maison-Blanche, il ne faut pas qu'elles aient l'air d'être le chef.
Ouais. Après 8 années passées à la Maison-Blanche et cette cote de popularité qui reste au plus haut, hein, encore aujourd'hui, Michelle Obama a un talent oratoire incroyable,
oui.
Elle est capable de galvaniser les foules,
oui,
on voit des femmes et des hommes qui ont les larmes aux yeux lorsqu'ils l'écoutent, des dizaines de milliers de personnes. Est-ce qu'elle pourrait être tentée d'entrer à son tour en politique un jour ?
Alors Barack Obama a dit récemment, il y a 3 choses certaines dans la vie, les impôts, la mort et le fait que Michel ne se présentera pas à la Maison Blanche. Voilà, mais comme vous le dites, elle a un talent fou. Le Parti démocrate lui la regarde avec une tendresse débordante. Est-ce qu'elle peut changer d'avis ? Elle ne l'a pas indiqué, mais en tout cas, je pense qu'une fois qu'elle aura quitté la Maison Blanche, tout lui sera ouvert, elle fera exactement ce qu'elle veut.
Elle sera très, très convoitée.
Oui.
Pour l'heure, Michelle Obama, en tout cas, s'engage pour la campagne présidentielle bien entamée.
I want a leader who is worthy of that truth. A leader who is worthy of my girl's promise and all our kids' promise. A leader who will be guided every day by the love and hope and impossibly big dreams that we all have for our children. So in this election, we need to knock on every door. We need to get out every vote. We need to pour every last ounce of our passion and our strength and our love for this country into electing Hillary Clinton as President of the United States of America. So let's get to work. Thank you all. God bless.
Pour ceux qui douteraient encore de l'incroyable leadership de Michelle Obama, elle mouille sa chemise pour Hillary Clinton. C'était en juillet dernier à la Convention démocrate. On est dans la grandiloquence, l'émotion, parce que c'est aussi le système américain. Je veux un leader qui sera guidé chaque jour par l'espoir, l'amour, les grands rêves que nous avons tous pour nos enfants, etc. etc. Mais elle fait le job pour soutenir Hillary Clinton.
Elles n'ont pas toujours. Franchement, c'est pas les meilleures amies du monde. Il faut quand même le dire. C'est vrai que la campagne de 2008, où Hillary Clinton se présentait contre Barack Obama pendant les primaires, donc pour choisir le candidat démocrate, donc les attaques ont été dures. Michelle, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à la fois Barack et Hillary ont dit que c'est toujours plus dur pour les conjoints d'assister aux attaques parce qu'ils sont relativement impuissants et ils ont du mal à passer l'éponge. On l'a vu autant du côté de Michelle que du côté de Bill Clinton. Mais là, l'affaire est urgente. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ni Michelle ni Barack Obama ne veulent laisser les clés de la Maison-Blanche à Donald Trump. Donc, il faut y aller. Et Michelle, elle dispose de tous les atouts que n'a pas Hillary Clinton. Elle est chaleureuse. Elle est aimée. Elle a un charisme débordant. On lui fait confiance. On la croit sincère. Toutes ces choses qui sont les points faibles de Hillary Clinton. Donc, on a vraiment besoin dans le camp démocrate qu'elle y aille et qu'elle y aille à fond.
Alors, Hillary Clinton, on l'a presque oubliée comme première dame, finalement, à force de la voir en campagne. Une femme sûre d'elle, avec une longue expérience de la vie publique lorsqu'elle arrive à la Maison-Blanche. Comment expliquer que, quelques jours après l'investiture de son mari, Bill Clinton, elle prend un avion de ligne, ce qui va poser de vrais problèmes de sécurité, un avion commercial, pour aller demander des conseils à qui ? À Jackie Kennedy, à New York. Alors que tout a changé depuis les années 60. Enfin,
c'est assez mystérieux et c'est encore un tiroir supplémentaire dans la personnalité extrêmement complexe d'Hillary Clinton. Hillary Clinton, pour moi, c'est un petit peu, surtout dans les années 90, le paratonnerre, vous savez, de toutes les luttes féministes, antiféministes. Elle est au cœur de ça. C'est une des raisons pour lesquelles elle a été autant démolie. Une femme qui est à la fois une femme amoureuse, une femme qui fait mille concessions pour maintenir ce mariage dans des circonstances que l'on sait difficiles, mais qui est aussi une intellectuelle, une avocate, une femme qui a une carrière très brillante, qui ne prétend pas être une maman en chef et qui a ses vulnérabilités. Et c'est vrai qu'il y avait un lien fort entre les Kennedy et les Clinton, que la famille Kennedy avait choisi les Clinton comme leurs héritiers, que Bill Clinton a souvent dit « Moi, j'ai eu la chance de serrer la main du président John Kennedy quand j'avais 16 ans. » Il y a une photo de cette rencontre et ça m'a insufflé l'envie de me lancer en politique. Et donc, c'est vrai que Hillary Clinton prend un avion de ligne, ce qui ne se fait pas quand on est First Lady, mais elle fait, quand on observe le parcours des unes et des autres, on voit qu'au fond, c'est des débutants qui arrivent à la Maison-Blanche. Ils ne connaissent pas toutes ces règles, et notamment toutes les règles de protection. Et elle va voir Jackie Kennedy, parce qu'elles ont une chose en commun, entre autres, c'est d'avoir des maris dramatiquement infidèles. Et Jackie avertit Hillary en lui disant « Soyez extrêmement prudent ». Car l'époque a changé. Vous savez que pour Kennedy, les journalistes n'allaient pas regarder de trop près. On sait qu'à l'époque de Bill Clinton, ça sera tout à fait différent.
Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions à Nicole Bacharan au 33 1 84 22 71 71 sur ces First Ladies. D'ailleurs, une question de Samy qui nous dit « Si Hillary Clinton est élue, comment va-t-on appeler Bill Clinton First Man ?» La question reste ouverte. Vous restez avec nous, Nicole Bacharan. Nous sommes au plus près des vies des épouses des présidents américains. 7 milliards de voisins. Nous revenons dans un tout petit peu plus de 3 minutes, juste après le flash, sur RFI, bien sûr.
autour de la...
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Nous sommes en compagnie de Nicole Bacharan, historienne spécialiste des États-Unis. Et nous sommes avec vous, Nicole Bacharan, au cœur de ces First Ladies. Vous signez un livre de 500 pages avec Dominique Simonet sur ces femmes, évidemment, au destin hors du commun et qui ont vécu entre... parfois moins de 4 ans pour certaines d'entre elles, notamment Jackie Kennedy, 2 ans et demi. D'autres, celle qui est restée la plus longue locataire à la Maison Blanche en tant qu'épouse de président.
Eleanor Roosevelt, voilà, et 3 mandats et demi.
12 ans, exactement. Avant que nous parlions que nous répondions à la question d'Émile qui nous pose cette question à Cotonou, qui est la First Lady, la première First Lady, je voudrais tout de même que nous revenions sur Hillary Clinton en tant qu'épouse du président Bill Clinton, parce que c'est vrai que finalement le scandale de Monica Lewinsky a tout dynamité sur son passage. Lorsqu'elle arrive à la Maison Blanche, elle est profondément impopulaire.
Elle est très vite impopulaire. En tout cas, elle est très vite impopulaire parce que Bill Clinton l'a toujours présentée comme sa partenaire politique. Il a toujours dit partout, cette femme est brillantissime, donc vous m'élisez moi, mais vous en aurez deux pour le prix d'un. Et bien, visiblement, les électeurs n'avaient pas du tout envie d'en avoir deux pour le prix d'un. Hillary Clinton a été tout de suite accusée d'être la Lady Macbeth de Little Rock, une femme dure, cassante, qui menait son mari à la baguette, qui dirigeait tout et qui n'était pas élu et que le président ne pouvait pas renvoyer comme un vulgaire conseiller. Il l'a chargée d'une immense réforme, la réforme du système d'assurance santé américain. Elle a travaillé énormément.
Où elle préside une commission, elle a une vraie fonction.
Une commission colossale. Elle prend des bureaux dans l'aile ouest, qui est l'aile du pouvoir et non pas l'aile de la First Lady. Normalement, elle doit se cantonner à l'aile est. Donc, elle fait partie du dispositif du pouvoir au plus haut niveau et c'est extrêmement mal vécu. Elle est très impopulaire. Et chaque fois qu'elle s'est approchée du pouvoir, au fond, elle a été très impopulaire.
Alors, c'est une femme qui va ensuite être blessée, mortifiée par le déballage intime avec l'affaire Monica Lewinsky. La justice publie les résultats d'analyse de la tache de sperme sur la robe de Monica Lewinsky. Mais enfin, on a tendance à oublier, mais c'est quand même
monstrueux.
Bill Clinton est accusé de parjure. Vous décrivez des scènes rocambolesques à la Maison Blanche. Les membres du Secret Service qui entendent des éclats de voix derrière la porte close de leur appartement, parce qu'évidemment...
On s'engueule ferme quand même,
voilà,
disons-le.
Il y a quand même une explication. La fille Chelsea qui appelle le pasteur Jesse Jackson à la Maison Blanche pour tenter d'apaiser la crise familiale. C'est l'amour qui compte, explique le pasteur Jackson. Le procureur Starr se prend pour Dieu avec des fonds publics. La First Lady est abattue, publiquement humiliée. Sally, c'est rocambolesque.
Ah mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Et c'est vrai que là, on a des scènes décrites de l'intérieur parce qu'on a réussi à avoir quelques témoignages. Mais Hillary Clinton elle-même n'a jamais dit un mot en public, ni à cette époque-là, ni plus tard. Récemment, elle a dit « j'ai tourné la page ».
Bien que ses conseillers, et les conseillers de Bill Clinton à l'époque, lui aient lourdement demandé de dire publiquement qu'elle pardonnait.
Voilà. Alors là, c'est pas du tout son genre. Et d'ailleurs, c'est à la fois sa force, parce que les Américains l'ont admirée à ce moment-là, vraiment. La dignité qu'elle a su garder alors qu'elle était traînée dans la boue d'une façon inimaginable, c'est sa force, c'est aussi sa faiblesse. Aujourd'hui, on voit qu'elle a toujours du mal à communiquer dans l'émotion, dans la chaleur, voilà, dans les larmes. C'est pas quelque chose qu'elle aime faire ou même qu'elle sait faire. Mais vous remarquerez au cours de cette très longue carrière, les moments où elle a été populaire, vraiment aimée, c'était les moments où elle était une épouse traditionnelle. Une épouse qui soutenait son mari pendant l'affaire Lewinsky.
Oui, où elle atteint 70% de cote de popularité.
Exactement, alors que quand elle se présente en 2008, en 2016, cette femme qui veut le pouvoir, qui le veut pour elle-même, elle n'est pas populaire.
Ce qui en dit long sur ce que les Américains attendent de la première dame, qu'elle reste dans un rôle d'épouse finalement.
Qu'elle reste dans un rôle d'épouse, qu'elle ne déborde pas. Et est-ce que ça va plus loin? Est-ce que c'est ce qu'ils attendent des femmes en général? En tout cas, pour les électeurs hommes, la question est encore ouverte.
Et on va bien sûr en parler. Alors, il n'y a pas qu'aux États-Unis que les premières dames ont marqué l'histoire. L'Argentine aussi se souvient d'une First Lady pas comme les autres, Eva Perón. Durant les années 40-50, la femme du président Juan Perón gagne l'affection de tout le pays. Elle est morte d'un cancer très jeune, elle avait seulement 33 ans et elle est toujours aujourd'hui vénérée en Argentine. Audevillier Moriamé, vous êtes avec nous au téléphone, vous êtes correspondante de RFI à Buenos Aires, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Alors comment explique-t-on cette fascination des Argentins pour Eva Perón encore aujourd'hui ?
Et pour comprendre, on peut penser à l'un des nombreux surnoms d'Eva Perón, la petite mère du peuple. C'est une femme qui est née dans un village de la Pampa, elle est issue d'un milieu social très modeste. Elle a toujours été perçue en fait comme quelqu'un de très proche des Argentins. En 1935, elle a 15 ans, elle part s'installer à Buenos Aires pour essayer de devenir actrice. C'est le rêve de nombreuses jeunes Argentines de l'époque. Elle finit à la place par faire du mannequinat, elle traîne dans les cercles militaires. C'est comme ça qu'elle va rencontrer le colonel Juan Perón, dont elle va devenir la maîtresse. Alors qu'elle ne vient pas du tout du même monde, Juan Perón casse tous les codes, décide de l'épouser avant de se présenter à l'élection présidentielle. Pour lui, en fait, Eva est un atout de poids. Elle est belle, elle est populaire, surtout elle est de bons conseils. C'est elle qui va le pousser à présenter un programme avec d'importantes mesures sociales. Et une fois son mari au pouvoir, elle va prendre les choses en main elle-même. Elle va créer la fondation Eva Perón, avec laquelle elle finance la construction d'hôpitaux, de logements, d'orphelinats. Elle entretient en fait une image de bienfaitrice tout en creusant les caisses de l'État. Mmh. En tout cas, les Argentins l'adorent, ils l'appellent affectueusement Evita. Ils l'aiment plus même que son mari, hein, qui est de plus en plus critiqué, lui, pour ses dérives autoritaires. Donc quand le pays apprend qu'Eva est atteinte d'un cancer incurable, vous imaginez que c'est le drame national. Elle meurt en 1952, vous l'avez dit, à 33 ans seulement. Et pendant les jours qui suivent sa mort, des dizaines de milliers d'Argentins font la queue sur des kilomètres de long pour voir son cercueil et lui rendre hommage.
Et 60 ans plus tard, les Argentins sont toujours aussi mordus d'Evita Perón.
Et oui, c'est assez impressionnant d'ailleurs, hein. Evita est partout, on voit son profil sur les billets de 100 pesos, sur les façades de nombreux bâtiments, son nom est régulièrement tagué dans la rue encore aujourd'hui. Et il y a même une ville en banlieue de Buenos Aires, Ciudad Evita, qui est construite de sorte à ce que, vu du ciel, les bâtiments dessinent le visage de l'ancienne première dame. Enfin, sa tombe, qui est au cimetière de la Recoleta à Buenos Aires, est systématiquement fleurie tous les jours. Eva Perón est en fait une véritable icône, pas qu'en Argentine hein, d'ailleurs, puisque sa vie a aussi fait l'objet d'un film avec Madonna et d'une comédie musicale toujours reprise sur Broadway.
L'histoire d'Eva Perón a aussi inspiré les Argentines qui se lancent en politique.
Oui, parce qu'Eva Perón a un peu instauré un précédent. Avant elle, aucune femme ne se mêlait de politique, d'autant moins dans un pays plutôt machiste comme l'Argentine. Mais Eva Perón a vraiment changé la donne en s'exprimant tout autant que son mari, en prenant à bras le corps de nombreux sujets de société. En fait, elle était une associée plutôt qu'une première dame. Après sa mort, Juan Perón va d'ailleurs perdre toute popularité. Il est renversé par un coup d'état militaire. Il reviendra dans les années 70 avec une nouvelle femme, Isabel Perón. Elle aussi prendra d'ailleurs un rôle actif en politique. Elle est sur le ticket présidentiel de son mari lors de l'élection de 1973 et elle deviendra présidente à sa mort un an plus tard. On peut également citer Cristina Kirchner qui a été présidente entre 2007 et 2015, elle-même première dame avant d'être présidente. Cristina Kirchner qui a toujours cherché à s'inscrire dans la lignée d'Eva Perón. Elle utilisait son image lors de ses meetings. Elle multipliait les mesures sociales pour les plus défavorisés. Dans ses discours, on retrouve d'ailleurs le même ton enflammé que dans ceux d'Evita. Bref, la petite mère du peuple est toujours bien vivante en Argentine.
Merci beaucoup Audevillier Moriamé en direct de Buenos Aires. Nicole Bacharan, est-ce que pour vous, il y a une personnalité à la Evita Perón, à la Maison Blanche, qui pourrait
s'appeler ? Il y en a une qui en a eu le surnom, en tout cas. C'est Nancy Reagan, que certains ont appelée l'Evita Perón de Santa Barbara, puisqu'elle venait de Californie. Mais ça n'était pas un compliment, ça n'était pas affectueux. C'était effectivement à l'époque où la comédie musicale mettait en avant Evita Perón, mais c'était vu comme une femme assez maléfique, assez avide de pouvoir, et qui faisait un petit peu peur.
Sinon, en termes de popularité de toutes les premières dames, plus de 40, hein, si je ne me trompe
41.
Pas, 41, la plus populaire, celle qui aujourd'hui reste la plus populaire.
Ah, la plus iconique, sans aucun doute, Jackie Kennedy. Sans aucun doute, par sa jeunesse, par sa beauté, par la tragédie, par comment dire, sa discrétion totale une fois qu'elle a quitté la Maison Blanche, et puis Michelle Obama, qui je crois marquera par cette espèce de chaleur débordante, cette décontraction, cette manière de bouger, cette manière de faire une place à la Maison Blanche, au fond, aux femmes de toute couleur, de tout niveau, de toute éducation, de tout niveau
social. C'est la femme de la réconciliation.
Voilà, vraiment. Elle est, et qui ne s'est jamais lassée d'embrasser, d'inclure, d'accueillir. Je pense qu'elle n'a pas fait tant de choses que ça, mais dans ce qu'elle a projeté de la Maison Blanche et même de l'histoire de l'Amérique, elle restera certainement toujours très populaire.
C'est une femme qui se place tout le temps dans ses discours, dans le futur, sur tout ce que nous faisons, c'est pour les générations suivantes. Alors évidemment, c'est quelque chose qui galvanise.
Oui, absolument. Et toujours, elle a...
Avec un rôle de modèle.
Voilà, elle tient... Enfin, le nombre d'interventions qu'elle a fait dans des écoles, avec des caméras, mais parfois sans caméra, pour dire à des enfants défavorisés, ben, vous voyez, moi, je viens d'un quartier pauvre, d'un quartier noir, et c'était possible, et c'est possible pour vous. Alors, il faut que vous travailliez, il faut que vous ayez les soutiens, etc. Mais moi, je viens comme vous, vraiment, du bas de l'échelle, et on peut y arriver. Ça a été le message de 8 ans de sa presque coprésidence.
Oui, alors évidemment, c'est ce que ne pouvaient pas dire toutes les femmes de président, parce qu'une bonne partie d'entre elles étaient nées dans l'élite.
Oui, évidemment, mais notamment Jackie Kennedy. Mais quand même, quand on regarde...
Eleanor Roosevelt,
alors elle, c'était
nièce
vraiment...
de l'autre président Roosevelt.
Voilà, c'était vraiment le sommet de l'échelle sociale aux États-Unis. Les Roosevelt sont des aristocrates, puisqu'elle s'était sa cousine, elle portait déjà le nom de Roosevelt avant de se marier. Mais c'est vrai que l'on trouve quand même, au fil de l'histoire, 19e, 20e siècle, des first lady et même des présidents qui donnent un sens au rêve américain, à l'homme parti de pas grand-chose qui peut arriver au sommet. C'est rare, ils ne sont pas nombreux, mais c'est possible.
Alors répondons à la question d'Émile qui a posté cette question de Cotonou au Bénin et qui demande qui est vraiment la première first lady, la première épouse de président.
Voilà, la première, c'est Martha Washington, épouse du général devenu président élu George Washington. Donc il entre en fonction en 1789. Il n'y a pas encore de Maison Blanche. Le pouvoir américain s'installe à New York, et la First Lady, qui est une dame du Sud, elle a 58 ans, elle n'est pas du tout préparée à ce rôle, arrive à New York en bateau, et quand elle débarque, elle est accueillie par une foule qui dit « longue vie à Lady Washington » et qui visiblement souhaite que cette femme joue un rôle. Mais quel rôle ? Ce sera à elle vraiment de tout inventer.
Et justement, en quoi, c'est l'autre question d'Émile à Cotonou, en quoi a-t-elle tracé le chemin pour les autres, pour les suivantes, pour les 40 suivantes ?
Elle l'a tracé d'une manière personnelle, qui était de sembler totalement neutre en politique, c'est-à-dire ni d'un parti, ni de l'autre, accueillant tout le monde, dans toutes les réceptions, faisant en sorte de mettre de l'huile dans les rouages, que chacun se parle, qu'il n'y ait pas de dispute, etc. Et certaines d'entre elles joueront ce rôle, au fond, de diplomate politique, à l'intérieur même du microcosme de Washington, avec beaucoup de talent.
Dans la violence de la politique.
Voilà, exactement. Il y en a quand même qui réussiront à aider à un certain dialogue entre les partis, entre les ennemis. Les inimitiés sont très violentes à Washington, au contraire de la France d'ailleurs, où tout est très paisible, comme on sait. Mais Martha Washington est aussi celle qui donnera une dignité à cette fonction de First Lady, en demandant qu'on lui fasse la révérence, qu'elle soit placée sur une estrade pendant les réceptions. C'est elle qui dirige ça avec beaucoup de grâce et de simplicité apparente. Par exemple, c'est elle qui règle la manière dont les invités peuvent se retirer en disant « Eh bien, écoutez, le général... Washington se retire toujours à 9h et je le suis immédiatement. Ce qui veut dire dehors tout le monde. Mais c'est vrai qu'elle instituera les premiers rites et qu'à partir d'elle, on attendra que chaque président soit flanqué de sa First Lady. Oui.
Mais bien, bien au-delà de ces histoires et de ces destins particuliers, finalement, qu'est-ce que racontent ces histoires de Première Dame sur la plus grande histoire, celle des femmes aux États-Unis ?
C'est vrai que ça raconte, le destin des First Lady, ça raconte l'histoire américaine et ça raconte l'histoire des femmes, et au fond, pas que des femmes américaines, puisqu'on les voit fortement présentes au début de la République américaine, donc à la fin du 18e siècle, au tout début du 19e siècle. Il y en a une, Dolly Madison, qui joue un rôle d'héroïne pendant ce qu'on a appelé la Deuxième Guerre d'Indépendance. C'est elle qui tient la Maison-Blanche face aux Anglais. C'est quand même assez impressionnant. On les voit glisser vers la sphère privée, des femmes que l'on voit peu, certaines qui détestent leur rôle, qui sont claquemurées dans leurs appartements, que leur mari méprise totalement au cours du 19e siècle, comme un peu pendant le Second Empire en France. Et puis, petit à petit, on voit des femmes qui font des études, qui exercent des métiers, qui n'ont pas peur de donner leur opinion, et certaines qui exercent le pouvoir même de manière occulte, comme Edith Wilson, la femme du président Woodrow Wilson, quand il est tombé très malade, Eleanor Roosevelt, qui est la première conseillère de son mari, extrêmement influente, et puis petit
avec un
à
long
petit,
passé de militante. Oui.
Exactement, militante féministe, militante des droits civiques, et puis petit à petit, eh bien, on arrive à la bascule, la First Lady qui se dit « mais je suis largement aussi qualifiée que mon mari et c'est à mon tour d'être présidente ».
Alors, vous restez avec nous, Nicole Bacharan. Dans quelques instants, nous allons donner la parole à une éditorialiste américaine sur le féminisme qui serait, selon elle, en train d'agoniser aux États-Unis, la faute aux people qui se décrète féministe, sans en endosser le combat politique ou le militantisme. Ce sera juste après « American Oxygen ». Oh, say, you see, this is the American dream. Young girl, just a lady on the other side of the ocean. You can be anything at all. America, America. America, America. Close your eyes and breathe. Rihanna chez 7 milliards de voisins sur RFI. Alors parmi les premières dames américaines, certaines se sont dites féministes, mais finalement qu'est-ce que être féministe signifie vraiment aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il reste de ce mouvement qui est censé défendre les droits des femmes, l'égalité avec les hommes ? Pour l'éditorialiste américaine Andy Zeisler, plus grand-chose, si ce n'est que le mot aujourd'hui, selon elle, fait vendre, et celle qui se dit féministe convaincue vient de publier un essai qui n'est pas traduit en français, me semble-t-il, « We are feminist once », donc en français on pourrait traduire « Il fut un temps où nous étions féministes ». Charlie Dupiot, notre reporter, la jointe par téléphone.
Quand tout le monde se dit féministe, que devient le vrai féminisme ? Quand j'ai grandi dans les années 80, on voyait les féministes comme des femmes en colère, qui n'aimaient pas les hommes, ou même des célibataires frustrés. Quasiment personne n'osait se dire féministe. Aujourd'hui, c'est au contraire devenu tendance. Depuis quelques années, l'industrie de la publicité a compris que si l'on flatte une femme en employant des mots comme émancipation, pouvoir ou force dans les pubs, on a plus de chances qu'elle achète vos produits.
À quoi vous voyez que le féminisme est devenu un argument marketing ?
Prenons l'exemple des shampoings. La marque Dove, qui avait lancé une campagne de pub intitulée « Vraie beauté », où sont photographiées des femmes de toutes les morphologies en sous-vêtements, avec l'idée de leur donner confiance en elles. Les shampoings Pantene aussi surfent sur cette idée d'un féminisme cool. Parfois, ce sont même des marques de chocolat ou de yaourt aussi qui utilisent ce vocabulaire. Tout cela a commencé à la fin des années 60, au début des années 70, dans ce qu'on a appelé la deuxième vague du féminisme.
Vous parlez aussi des personnalités qui se sont appropriées le féminisme, comme Beyoncé, pour lui faire beaucoup de mal, c'est ce que vous écrivez. Quel mal ces personnalités font au féminisme aujourd'hui ?
My point is that
les médias généralistes n'évoquent le féminisme qu'à travers des pop stars comme Beyoncé, Taylor Swift ou comme l'actrice Emma Watson. Il y a un danger à lier le féminisme uniquement à des individus, des personnes et à ne pas parler des vrais problèmes, des systèmes, des schémas qu'il faut combattre si on veut atteindre une vraie égalité homme-femme. On oublie que de nombreuses femmes sont contraintes dans leurs choix et sont loin d'avoir la vie de ces célébrités qui se disent féministes.
Vous dites que ce féminisme qui peut se montrer un peu creux parfois, qu'on va afficher dans des concerts ou dans des spectacles ou sur des plateaux télé, en fait, nous éloigne des vraies inégalités entre les hommes et les femmes.
Oui, c'est ça. Pour ces célébrités, le féminisme est une marque. Cela fait partie de l'image qu'ils veulent renvoyer. Et pour qu'une marque réussisse, pour qu'on s'en souvienne, il faut simplifier le message au maximum, pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Et pourtant, le féminisme est incroyablement complexe. Il pose plein de questions dans des domaines variés. Et d'ailleurs, on l'a vu aux États-Unis ces dernières années. Il y a aussi un grand nombre de femmes politiques qui misent sur la popularité du féminisme. Sarah Palin en 2008, par exemple, quand elle était candidate républicaine au poste de vice-présidente des États-Unis, elle a voulu se prétendre féministe. Mais c'est très discutable pour une femme qui s'oppose au droit à l'avortement.
Mais donc, ça veut quand même dire qu'en politique, on va afficher, quand on est une femme, le fait d'être une féministe.
Oui, même si je pense qu'Hillary Clinton est un cas compliqué. Elle a changé d'attitude par rapport à ça. En 2008, quand elle s'est présentée aux primaires démocrates, elle était loin d'être sûre de l'emporter. La course avec Barack Obama était très serrée. Et à mon avis, elle ne voulait pas jouer la carte femme, comme on dit ici, ou mettre en avant son statut de femme pour attirer les électrices. Mais 8 ans plus tard, elle a plus confiance en elle, en ses chances. Entre-temps, elle a été secrétaire d'État. Elle sait qu'en politique, tout ce qui peut aider à être élu est bon à prendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'être vue comme féministe aide probablement Hillary Clinton.
Elle a néanmoins été critiquée par un magazine conservateur britannique, The Spectator, qui écrivait qu'elle n'incarnait pas le triomphe du féminisme, mais au contraire celle de l'institution du mariage, puisque ce serait grâce à son mari qu'elle en serait arrivée là. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Pour moi, c'est partiellement vrai. Elle est connue du grand public depuis 1992, date à laquelle son mari, Bill Clinton, est devenu président des États-Unis. Mais elle menait sa vie d'avocate de son côté, avec un vrai intérêt pour la politique. Pendant les premiers débats auxquels elle a participé, elle parlait de ces femmes âgées, veuves, qui vivent dans la pauvreté et qui ne bénéficient pas de la sécurité sociale aux États-Unis. Le sujet n'avait pas été évoqué jusque-là par les gens au pouvoir, qui ont longtemps été des hommes blancs. Donc non, je trouve plutôt sexiste l'idée qu'elle sera arrivée là où elle en est aujourd'hui, uniquement grâce à son mari.
Voilà, c'était Andy Zeisler. Son livre « We were a feminist once » a été publié tout récemment. « Il fut un temps où nous étions féministes ». Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse sur la pipolisation, finalement, du féminisme ?
Ah, je trouve que c'est très pertinent. C'est très pertinent. C'est vrai qu'on a le sentiment que le féminisme est un peu perdu, un peu vidé de sa substance. Vous avez des théoriciennes qui se perdent dans des débats extrêmement abstraits et me semble-t-il, bien peu efficaces, alors que la condition des femmes dans le monde, on est quand même une petite planète, on ne peut pas regarder que nos pays immédiats. La condition des femmes dans le monde, elle est quand même très, très en danger. Et énormément de femmes qui sont soumises à une dictature dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, qui font absolument frémir. C'est vrai aussi que de faire de chanteuses comme Beyoncé des icônes féministes, parce que ce sont des femmes qui ont le pouvoir dans leur métier, mais qui en même temps recyclent toute une espèce d'imagerie semi-pornographique,
c'est une manière marketing d'exprimer le féminisme qui est quand même assez...
Ouais, sans parler de l'affaire Kardashian qui est assez troublante. Revenue aux États-Unis après avoir été agressée dans son hôtel particulier à Paris, a été accueillie quasiment en chef d'État aux États-Unis. En tout cas, elle fait la une de tous les médias juste après la campagne présidentielle. On peut quand même se demander...
Est-ce que c'est du... Kim Kardashian est célèbre pour être Kim Kardashian, est célèbre pour sa notoriété.
Pour poster toutes les 10 minutes un détail de sa vie privée.
Il n'y a pas d'accomplissement d'aucune sorte.
Ceci dit, plus sérieusement, Nicole Bacharan, quand on regarde les couples présidentiels américains, surtout par rapport à l'Europe, sans parler de la France, mais enfin encore que, ce sont des couples quand même assez traditionnels. Il n'y a pas de divorce à la Maison Blanche, pas de famille recomposée.
Il y a eu des divorces avant. Il y a eu quelques couples divorcés, quelques présidents qui ont été divorcés. Je pense notamment à Ronald Reagan qui avait été divorcé. Mais une fois qu'on entre à la Maison Blanche, on est prié d'incarner la famille modèle. Ça ne rigole pas, si j'ose dire.
C'est le contrat.
C'est le contrat parce qu'au fond, il y a une espèce de... Peut-être est-ce un relent de vieille tradition puritaine. Il faut que l'homme qui est en charge, le président, incarne la réussite. Et donc, à la fois la réussite professionnelle, la réussite politique, mais la réussite familiale. La réussite familiale, ça veut dire une épouse radieuse à ses côtés et des enfants radieux à ses côtés s'il a des enfants. C'est une espèce de caution à la fois morale, sociale, etc. Tous les couples n'ont pas été idéaux, c'est le moins qu'on puisse en dire. Et je pense au Nixon, par exemple.
Et si Donald Trump était élu, qu'aurait-on à dire du couple Trump avec Madame Trump?
Alors là, je pense qu'on aurait une espèce de régression vers la femme objet. Vous avez cette femme très belle, toujours silencieuse, qui regarde son mari avec adoration. Et si jamais elle ouvre la bouche, ça tourne au désastre.
On pompe pour elle les discours de Michelle Obama.
Donc je pense que le risque est grand. Nous reviendrons avant les années 50 dans ce cas-là.
Merci beaucoup Nicole Bacharan. Vous publiez First Ladies à la conquête du pouvoir. C'est publié aux éditions Perrin, 500 pages. Alors ça se lit vraiment comme un roman. Merci à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Camille Néran, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins. Journée mondiale des enseignants. Nous parlerons de leur motivation. Et bien sûr, vous avez la parole si vous exercez ce métier difficile. Qu'est-ce qui vous motive ou vous démotive aussi pour faire la classe, transmettre des connaissances? Bref, dans quel état est votre moteur intérieur? Appelez-nous dès maintenant si vous êtes enseignant au 33 1 84 22 71 71.